Philippiens, chapitre 4. Globalement, l'église de Philippe était une église solide. C'était une église, globalement en bonne santé. Paul dit beaucoup de choses positives à leur sujet. Il remercie Dieu pour leur partenariat dans l'Évangile, comme dans chapitre 1, verset 5, par exemple. Il exprime une vraie affection pour eux. Il dit qu'il partage avec lui la grâce. Il va même jusqu'à dire au chapitre 1, verset 8, qu'il les aime avec la tendresse même de Jésus-Christ. Plus près de notre passage en Philippiens 4, verset 1, Paul les appelle mes bien-aimés et très chers frères, et aussi ma joie et ma couronne. Donc, oui, c'est une église que Paul aimait profondément. Et c'était une église en bonne santé. Mais même une église en bonne santé n'est pas une église parfaite, n'est-ce pas? On le sait tous, une église parfaite, ça n'existe pas. Parce que le péché est dans chaque cœur. Et là où il y a le péché, il y a forcément des problèmes. Notre texte ce matin, c'est Philippiens 4, versets 2 et 3. Et c'est un texte court qui ne contient pas énormément d'informations, mais il attire notre attention sur un problème particulier qui existait là dans l'église de Philippe. Il y avait une dispute. Il y avait un désaccord entre deux femmes, Évodie et Sentiche. Du coup, on va lire notre texte ensemble et je pars du verset 1 pour qu'on ait bien le contexte. Philippiens, chapitre 4, versets 1 à 3. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Sentiche à être dans le même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Donc, clairement, ce texte tourne autour d'un problème dans l'Église, une dispute dans l'Église. Mais si on regarde de plus près, on réalise que Paul nous pousse doucement à voir cette dispute sous trois angles, trois points de vue différents. Et c'est ce qu'on va causer ce matin. Ce qui est intéressant, franchement, c'est qu'on sait très peu de choses sur cette dispute. Quasiment rien est précisé. Juste le fait qu'il y avait deux personnes impliquées, deux femmes. Mais on peut quand même deviner quelques éléments en comparant avec d'autres passages de Paul. Parce que si on connaît un peu qui est Paul, si on connaît sa personnalité, si on connaît son parcours, sa façon d'être et les sujets qu'il aborde, on voit bien que Paul n'avait pas l'habitude de mâcher ses mots. Quand il y avait un péché à nommer, il le nommait. Quand il y avait une erreur théologique aussi, il l'a pointé. Par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5, Paul nomme et reprend l'église de Corinthe pour l'immoralité sexuelle qu'elle tolérait. Ou encore dans la lettre aux Galates, il omet entièrement sa section d'habituel d'action de grâce et entre directement dans les reproches adressés à l'Église pour s'être laissé entraîner dans une erreur théologique particulière. Regardons rapidement Galates, l'épître aux Galates, chapitre 1. Verset 6, il saute direct, juste après le premier verset, il n'y a pas d'action de grâce, et il saute direct à ça. « Je m'étonne que vous vous détrôniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile du Christ. Donc, Paul n'a pas peur. Il n'a pas peur de pointer une erreur théologique. Il n'a pas peur de nommer un péché grave. Donc, si on garde ça en tête, on peut raisonnablement penser que ce désaccord en Philippiens chapitre 4 ne porte pas sur une grande question théologique ni une grande erreur morale. Paul ne nomme aucun péché et aussi il ne prend parti pour personne. Et ça, c'est déjà un indice. Quelque chose d'autre se joue ici, dans ce passage. Tout indique que c'est une dispute interpersonnelle. Peut-être une tension qui, en apparence, aurait pu sembler presque banale. Pourtant, ça ne veut pas dire que c'était un petit problème. Parce que Paul en était informé. Et si on comprend la situation, où était Paul quand il a écrit cette lettre et où était la ville de Philippe? C'était environ 1000 kilomètres. Et ça, c'est avant Internet, n'est-ce pas? Donc, le fait même que Paul est au courant avec cette situation, ça veut dire que c'était quelque chose d'assez grand. Du coup, on pourrait se demander si ce n'est pas un gros problème moral. Ce n'est pas une question doctrinale centrale de l'Église. Pourquoi en parler? Pourquoi est-ce que ça mérite qu'on s'y arrête? Pourquoi est-ce que ça compte? Eh bien, ça compte parce que Jésus a prié en Jean 17. Pour que son Église soit unie. Il a prié spécifiquement pour que cette unité soit un témoignage au monde, pour que le monde puisse croire que le Père a bien envoyé le Fils. Regardez avec moi, Jean chapitre 17, verset 20 jusqu'à 21. L'évangile de Jean, chapitre 17. On commence avec le verset 20. C'est une prière. C'est une prière de Jésus. C'est vers la fin de sa vie, avant la croix. Et il prie. Ce n'est pas pour eux seulement, il parle de ses disciples là. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, c'est-à-dire nous en tant que croyants aujourd'hui. Afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça, c'est ce que Jésus a prié pour nous. Donc, les disputes, même les petites disputes dans l'Église, ça compte. Ça compte parce que la façon dont on prend soin les uns des autres, dont on sème les uns les autres, c'est une apologétique devant le monde qui nous entoure. On voit un petit aperçu de ça dans l'Église primitive, en Actes chapitre 2, verset 47. Il y a cette petite note qui dit « Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ce petit mot, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. C'est exactement ce témoignage dans le monde que Paul a en tête quand il parle de briller comme des flambeaux. Vous vous souvenez en chapitre 2 de notre épître du Philippiens, chapitre 2, verset 15. Et ce qui est frappant, c'est que ce rayonnement dont il parle, il se joue dans le contexte de faire toutes choses sans murmure et sans contestation. C'est exactement ce que je dans notre texte ici, en contestation, un problème entre deux personnes dans l'Église, une rupture d'unité. Donc oui, l'unité dans le corps, ça compte. Ça compte pour Jésus, ça compte pour notre témoignage dans le monde. Et c'est très important. Tout coup, qu'est-ce que Paul fait? On a déjà noté, il ne prend pas parti dans cette dispute. En fait, regardons ensemble à nouveau le verset 2. Le verset 2 de Philippiens, chapitre 4, notre texte pour ce matin. Il dit, j'exhorte Saint-Tiche à être dans le même sentiment dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, mais même peut-être un peu surprenant, dans cette première partie de la phrase? Vous le voyez, c'est au niveau de grammaire même, je ne sais pas. Paul répète le même verbe deux fois. Il dit « j'exhorte Evodie » et « j'exhorte Saint-Tiche ». Et il aurait pu dire simplement « j'exhorte Evodie » et « Saint-Tiche », n'est-ce pas? C'est quoi la différence? Cette répétition, elle change un petit quelque chose, c'est un peu de nuance. Paul s'adresse à chacune séparément. Paul s'adresse directement aux deux parties, individuellement. Est-il possible qu'une des deux parties ait été plus en faute que l'autre? Est-ce que ça, c'est possible? Oui, bien sûr. Mais toute dispute implique au moins deux parties. Et il est rare, voire jamais, que toute la faute soit d'un seul côté. Du coup, Paul appelle les deux à agir. à être d'accord dans le Seigneur. Il semblerait que ce soit tout ce qu'il leur dit. Mais pourquoi ils s'arrêtent là? Pourquoi c'est aussi court? Pourquoi il ne leur donne pas une belle théologie à se mettre sous la dent? Eh bien, la réponse, c'est qu'en fait, il le fait. Et c'est là qu'il faut se souvenir la nature originale de ces lettres, ces épîtres qu'on a dans nos Bibles. Se souvenir leur nature et leur usage original. À la base, quand ces lettres arrivaient dans les églises, elles n'étaient pas découpées en 10, 15 prédications pour prêcher à travers plusieurs mois. Elles étaient lues en une seule séance devant toute l'assemblée. Je ne dis pas que c'est mal de travailler Paul comme on le fait, c'est tout à fait juste de le faire comme ça, mais l'un des risques, c'est de perdre le fil de contexte global dans le livre. Je ne pense pas que cette dispute soit la raison principale pour laquelle Paul écrit cette lettre, mais c'était clairement dans un coin de sa tête, tout au long de le processus. Du coup quand on lit Philippiens 4, verset 2, « J'exhorte Évodie, j'exhorte Sentiche à être dans le même sentiment dans le Seigneur », on devrait automatiquement faire le lien avec chapitre 2, verset 2, avoir le même sentiment. C'est un peu comme un hyperlien qui nous renvoie directement aux idées qu'il a développées là, en chapitre 2. Du coup, regardons ensemble à chapitre 2, versets 2 à 8. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un poids arraché, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant en forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Vous voyez ce passage, c'est le cœur théologique du livre. Paul met devant les yeux Jésus comme exemple ultime. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, Dieu depuis toujours, qui s'est abaissé pour servir, qui s'est fait homme, pas juste pour servir, mais pour mourir à notre place. Et cette humilité radicale, elle nous donne la forme du discipulat. Et du coup, elle nous donne aussi la forme de la résolution des conflits dans l'Église. Et cela reflète bien sûr les propres paroles de Jésus rapportées en Luc chapitre 9, verset 23. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » le vrai disciplat à la forme de la croix, le vrai christianisme demande une vie cruciforme. C'est ça la beauté de la vie chrétienne. La beauté de l'Évangile, la beauté même de Jésus. Ésaïe dit que le Messie n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais Jean dit que nous avons contemplé sa gloire. Jésus n'avait rien de spécial physiquement, mais il y avait quand même en vraie beauté, une gloire à voir. Il brillait de la gloire pleine de grâce et de vérité. Et cette gloire, cette beauté, elle s'est vue où? Le plus clairement. Jésus dit que c'est à la croix. Jean chapitre 12, verset 23, il parle de la croix comme de l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est ça la gloire, la beauté de Jésus, cette humilité, ce don de soi. Et c'est aussi ce qui devrait être la beauté de l'Église. Il nous appelle à une humilité radicale qui renonce à soi-même, et une vie qui reflète le modèle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est une humilité radicale qui est récompensée, c'est sûr. On le voit dans l'image de la résurrection dans les versets suivants, versets 9 et suivants, mais c'est quand même une humilité réelle, une humilité qui coûte. Et c'est à ça que Paul appelle Evodie et Santiche ici dans notre passage. Ce qui est nécessaire si on veut trouver une vraie unité chrétienne dans l'Église, on doit être prêt à mettre de côté nos différences dans l'humilité, renoncer à l'ambition personnelle et considérer l'autre comme plus important que nous-mêmes. C'est ça. Quel conflit pourrait survivre si on laissait vraiment Philippiens 2 s'infiltrer et ordonner nos vies? Quel conflit pourrait survivre? Peut-être que vous êtes assis là ce matin et vous vous rendez compte que vous êtes en train de taper une sorte de fichier dans votre tête contre un frère ou une sœur ici dans l'église. Chaque petite offense, chaque impolitesse vient s'ajouter, le fichier s'allonger. Et vous ne les regardez plus de la même façon qu'avant. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre ce document et le glisser à la corbeille. Les conflits, surtout dans l'Église, c'est difficile, c'est lourd. Mais ce qui est encourageant, c'est ceci, dans l'Église, dans la famille de Dieu, on n'a pas à traverser ça tout seul. Ce texte nous pousse à regarder l'idée de le conflit en trois angles. Le premier angle, c'était l'angle de ces femmes elles-mêmes. Le deuxième angle sur lequel ce texte nous invite à regarder le désaccord, l'angle de pacificateur, l'angle d'artisan de paix. Heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Au verset 3, qu'est-ce que Paul dit? Verset 3, Philippiens 4. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. On ne sait pas exactement qui était ce fidèle collègue. L'Église, elle savait immédiatement de qui Paul parlait. Mais ce qu'on sait, c'est que Paul fait appel à d'autres. Paul ne met pas tout le fardeau uniquement sur ces deux femmes. Il fait aussi appel à cet ami, ce collaborateur, pour intervenir et aider à amener la réconciliation. Et frères et sœurs, ce matin, c'est à ça qu'on est appelé en tant qu'Église. Oui, on partage de beaux moments ensemble en tant que famille de Dieu. On adore le Seigneur ensemble dans le chant. On ouvre la parole ensemble, on partage des histoires, des rires autour des repas, on sert ensemble dans différents ministères. Mais parfois, on doit aussi faire le travail difficile, le travail un peu compliqué, de porter les fardeaux les uns des autres. L'Église, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas quelque chose auquel on assiste. C'est quelque chose qu'on est. C'est un corps, une famille. Parfois, l'amour nous pousse à aller vers un frère ou une sœur et à dire, et je vois ce qui se passe. Et on va régler ça ensemble. Je suis ici pour t'aider. On va traverser ça ensemble, ce problème. Donc voilà, on marche ensemble, on combat ensemble le combat de la foi. Et on s'aide les uns des autres à voir là où on est aveugle, là où on a perdu de vue quelque chose sur l'Évangile, sur la vie en forme de quoi. On s'entraide dans le moment difficile, on s'entraide dans le combat contre le péché et on grandit ensemble vers le Seigneur, main dans la main. Et justement, souvenons-nous que le partenariat dans l'Évangile, dont Paul parle si souvent dans cet épître, ce n'est pas seulement un partenariat pour que l'Évangile avance dans le monde. C'est ça, c'est sûr. Mais c'est aussi lié au travail que l'Évangile fait en nous, en nos cœurs, dans nos cœurs. Comme j'en ai parlé il y a quelques semaines, à partir de l'épître de Colossiens, chapitre 1, verset 6, notre partenariat évangélique, ce n'est pas uniquement tourné vers l'extérieur, mais aussi une affaire de croissance antérieure dans l'Église, et dans chaque cœur. On marche côte à côte pour que l'Évangile avance dans le monde et pour que l'Évangile grandisse dans nos cœurs. Et quand ça se passe, quand ces deux choses avancent ensemble, on va refléter l'Évangile dans nos vies et dans nos relations dans l'Église. En arrivant à la fin ce matin, je veux qu'on regarde un troisième angle celui que Paul laisse entrevoir dans la façon dont il écrit ses femmes et ses autres compagnons. Okay? On a regardé l'angle des femmes elles-mêmes, leur responsabilité de se réconcilier. On a regardé l'angle de la communauté, l'Église qui rentre dans le mêlée pour aider. Et maintenant, le troisième angle, celui de Dieu lui-même. Regardons ensemble la fin de verset 3. Philippiens 4, verset 3. « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. Et Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » La façon dont Paul décrit ces femmes, elle ne s'arrête pas à ce qui va mal. Il les appelle à se réconcilier, c'est vrai, mais il sait qu'elles sont bien plus que leur péché. Il prend du recul et enlarge la focale. Et il leur donne le regard de Dieu sur elles. Il mentionne deux choses. La première, ces femmes étaient les collaboratrices de Paul pour l'Évangile. Le thème du partenariat revient encore. On ne sait pas exactement comment elles ont aidé. Le texte ne dit pas, mais clairement, elles ont travaillé très près de Paul. Et c'est vraiment intéressant qu'il mentionne ça ici, dans ce contexte, dans ce contexte du dispute. Pourquoi? Peut-être juste pour leur montrer qu'il les voit, pour souligner le bien dedans, la bénédiction qu'elles ont été pour Paul. Mais il y a peut-être aussi là-dedans un appel implicite. Allez, reprenez-vous. Vous avez du boulot à faire ensemble. Vous vous souvenez de comment Paul a parlé de son emprisonnement au chapitre 1? Il a écrit au verset 12, chapitre 1 de Philippiens, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Paul conclut cette section en parlant du fait qu'il y avait des prédicateurs qui annonçaient l'Évangile avec l'intention d'affliger Paul dans son emprisonnement. Il dit, verset 18, « Comporte de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Quel est le point? Le point, c'est parce que Paul est centré sur l'avancée de l'Évangile, même les mauvaises choses qui lui arrivent, même les attaques qui viennent contre lui, ça ne le trouble pas. Parce que tout ça contribue à l'avancée de l'Évangile et ça, c'est son but, l'objectif de sa vie, l'avancée de l'Évangile. Qu'est-ce que ça signifie pour Évodie, pour Saint-Tiche? Ça, vous avez peut-être dire qu'elles ont besoin de ramener le regard là où il était avant. Travailler ensemble pour l'Évangile plutôt que se heurter par l'ambition personnelle. Mais Paul ne les appelle pas à ça explicitement ici. c'est seulement un rappel de la grâce qu'il a vue dans leur vie. Dieu les a utilisés. Et plus important encore, Dieu les aime. Elles sont à lui. Et c'est en fait ainsi que notre passage ce matin arrive à sa conclusion. Philippiens chapitre 4, verset 3, la fin de ce verset, il dit « Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Le nom était dans le livre de vie. Elles ont été sauvées par grâce, par miséricorde de Jésus. Et au fond, c'est ça qui compte. C'est le regard de Dieu sur elles. La grâce de Dieu est extraordinaire. N'est-ce pas extraordinaire de lire une lettre comme celle adressée à l'église de Corinthe, comme j'ai mentionné tout à l'heure, comme chapitre 5, où on voit toutes les mauvaises choses qu'il a fait et qu'ils étaient en train de faire. Et Paul, quand il a écrit cette épître à l'église à Corinthe, il dit ça, en Corinthiens 1, versets 2 à 3, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'Église de Corinthe, elle avait des vrais problèmes, n'est-ce pas? Des problèmes sérieux. Et pourtant, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul les appelle ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Frères et sœurs, si vous êtes en ce moment dans un conflit avec un frère ou une sœur, peut-être ce dont vous avez besoin avant tout, c'est d'être remis face au regard de Dieu. Le regard de Dieu sur vous et le regard de Dieu sur l'autre. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes des saints. Vos noms sont écrits dans le livre de vie. Justement, dans le début de cette même lettre, Paul a écrit ces mots qui font du bien. Tenez avec moi à Philippiens chapitre 1, verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6. On va finir avec ces mots. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, merci pour ce texte, ce court texte. Mais merci pour Jésus. Merci pour le fait que tu prends soin de nous, que tu nous unifies Aide-nous à être une église unie qui reflète toi, qui reflète qui tu es. Aide-nous. S'il y a des conflits, peut-être, même dans cette assemblée, aide-les. Aide-nous à régler ça pour être une église qui te reflète. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.